Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Bless, je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des océans et pour l'occasion, on va s'entretenir avec Titouan Bernico. Il est le fondateur de l'association Coral Gardeners qui veille à la sauvegarde des récifs coralliens en Polynésie française. On va aussi parler de théâtre, cette fois ce sera avec Xavier Barthélémy. Il nous parlera du nouveau spectacle de sa troupe, le Petit Théâtre de Sydney, une troupe qui a la particularité de jouer en français. Et puis comme d'habitude, on fera le point sur les actualités sportives, mais aussi sur les événements marquants de ces derniers jours en France. Mais pour l'instant, c'est l'heure du journal, on y va. À la une de l'actualité de ce mardi 8 juin 2021. Plusieurs centaines de membres d'organisations criminelles ont été arrêtés par la police australienne, le résultat d'une enquête qui aura duré 3 ans et a été menée conjointement avec le FBI. À Melbourne, la source du variant Delta, dont sont porteurs une dizaine de personnes infectées ces derniers jours, a enfin été identifiée. Et en France, Éric Zemmour ne cache plus ses intentions de se présenter à l'élection présidentielle l'année prochaine, tandis que Jean-Luc Mélenchon est, lui, sous le feu des critiques après avoir tenu des propos complotistes. Et c'est un coup de filet d'une ampleur inégalée. La police australienne vient d'annoncer l'arrestation de plus d'une centaine de membres affiliés à des organisations criminelles, responsables entre autres d'avoir ordonné des assassinats, importé des quantités énormes de stupéfiants, mais aussi d'avoir blanchi de l'argent. L'AFP, la police fédérale australienne, conjointement avec le FBI américain, a mis au jour ses activités en réussissant à pirater un service de messagerie cryptée qui était utilisé par ces criminels au cours d'une enquête qui aura duré plus de 3 ans. En plus des arrestations, l'AFP a également saisi plus de 3 tonnes de drogue, 45 millions de dollars en espèces et empêché pas moins de 21 projets d'assassinat. Un travail de longue haleine et qui a mobilisé des milliers de policiers dans le cadre de cette opération baptisée Ironside. C'est ce qu'a rappelé Rhys Kershaw, le commissaire de l'AFP.
More than 4,000 officers from law enforcement in Australia have been involved in executing over 525 search warrants in every mainland state in Australia. And Ironside has arrested and charged who we alleged are some of the most dangerous criminals to Australia. We allege they are members of outlaw motorcycle gangs, Australian mafia, Asian crime syndicates and serious and organised crime groups.
Une lueur d'espoir dans l'état du Victoria où les autorités ont annoncé aujourd'hui avoir pu retrouver l'origine du variant Delta dont sont porteuses une dizaine de personnes actuellement. Il a en fait été rapporté en Australie par un homme qui avait été placé en quarantaine le mois dernier à son retour du Sri Lanka. Le professeur Alan Cheng, médecin-chef adjoint de l'État, a précisé que l'enquête se poursuit pour savoir comment cette contamination a pu fuiter depuis l'hôtel où cette personne avait été placée, et ce alors qu'aucune entorse au protocole en place dans ces établissements n'a à ce jour été relevée.
We now have a source from which to start from, so we can start contact tracing or start investigations not only upstream from the North Melbourne families, but also downstream from this case. And this is similar to where New South Wales was with their Wallara case and his wife. Secondly, this also does mean that we have a start time for the outbreak, so we now know that it couldn't have been in Victoria before the 8th of May.
Des nouvelles qui laissent donc penser que le confinement, qui doit se terminer normalement jeudi, ne sera pas prolongé, même si le Premier ministre par intérim, James Merlino, n'exclut pas le maintien de certaines restrictions.
We remain on track to later in this week announce, as we've said we've planned to do all along, further easings of restriction in regional Victoria and careful easing of restrictions in Melbourne. This cluster was discovered after the lockdown was in place, and nothing about today changes our plans.
le gouvernement australien de nouveau critiqué pour le traitement infligé à une famille de Tamouls détenus depuis août 2019 dans le centre de Christmas Island. Cette famille, qui avant son transfert vivait dans la petite ville de Biloela dans le Queensland, ne recevrait pas les soins médicaux appropriés dans ce centre de détention où ils sont les seuls pensionnaires. L'illustration la plus récente de ce manque de soins étant le transfert de la plus jeune fille de la famille, la petite Tarnica, vers un hôpital de Perth pour une probable infection sanguine. Avant ce transfert, elle avait dû attendre plusieurs jours avant d'être consultée par un médecin sur Christmas Island, et ce malgré les demandes répétées de sa mère. Angela Fredericks, qui est une amie mais aussi la défenseure de cette famille, a appelé sur la chaîne 9 le gouvernement à rendre sa liberté à cette famille et à laisser rentrer vivre dans le Queensland où ils habitaient avant d'être arrêtés.
These girls, you know, I talk with them all about the things we're going to do once they're home. Mm. You know, this is where they belong. This is their home and this is where they're safe and we know they'll be cared for. Mm. So we just continue to pray and hope and talk to the powers that be that that happens soon.
Tanika turns four next week. She was born.
Et vous connaissiez Denver le dinosaure, voici maintenant Cooper le titanosaure. C'est le nom qui a été donné au dinosaure qu'on estime être le plus gros jamais découvert en Australie et dont des ossements avaient été retrouvés en 2006 dans le Queensland, près d'une petite ville qui s'appelle Cooper Creek. Alors d'après les paléontologues qui en ont fait la découverte, cet animal qui vivait à l'ère du Crétacé, c'est-à-dire il y a plus de 90 millions d'années, mesurait entre 25 et 30 mètres de long et il pouvait atteindre jusqu'à 6,5 mètres de haut. Il s'agissait d'un herbivore dont les dimensions le placent parmi les 15 plus grands dinosaures jamais découverts à travers la planète. En la matière, le record revient au titan de Patagonie, un cousin donc de ce Cooper australien, mais originaire, lui, comme son nom l'indique, d'Amérique du Sud. Depuis lundi, l'Espagne est à nouveau ouverte aux touristes et s'ils sont vaccinés, ils n'ont même pas besoin de passer un test PCR. Pour entrer dans le pays, un certificat de vaccination complète suffit. À Barcelone, le reportage d'Élise Gazangel pour RFI.
Les touristes du monde entier peuvent venir en Espagne, c'est du moins le slogan utilisé par le gouvernement qui assouplit les restrictions et permet notamment aux vaccinés de venir sans test. Mais tous n'y croyaient pas ce lundi à l'aéroport de Barcelone, à l'image d'Irina Temière.
J'ai fait le test par précaution, mais quand même j'ai mon QR code de vaccination que j'ai présenté d'abord. Et comme ça marchait, je n'ai plus présenté le PCR. Je n'étais pas sûre parce que c'est le premier jour.
Pour Roger et Christian Steinhauser, en revanche, aucun doute et beaucoup de soulagement.
Le plus grand plaisir.
On est heureux d'aller manger des tapas au bord de la mer. Voilà.
Le couple de vaccinés profite surtout de l'occasion pour venir voir leur fils et petits-enfants. La dernière fois qu'ils étaient venus à Barcelone remonte à mars 2020.
J'espère que ça va nous réconcilier avec le fait de venir le plus souvent possible, comme on faisait avant. Alors que là, c'était la punition de chez punition.
Avec ces assouplissements, l'Espagne espère surtout retrouver cette saison 70% de l'activité touristique de 2019 pour un secteur qui représente 13% de son PIB et de ses emplois. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
Et tandis que certains donc repartent en vacances en Espagne, le milliardaire Jeff Bezos, lui, va bientôt partir dans l'espace. Le fondateur d'Amazon a fait savoir qu'il sera du voyage le mois prochain pour le premier vol suborbital lancé par son entreprise Blue Origin. En plus de l'équipage, il retrouvera à bord son frère Mark, ainsi qu'un autre passager dont l'identité n'a pas été dévoilée, mais qui est celui qui a emporté les enchères pour obtenir son ticket à bord de ce vol inaugural. Ce vol, donc, il partira précisément le 20 juillet et il lancera officiellement les activités de tourisme spatial de la compagnie Blue Origin, et ce même si, pour le moment, la vente des billets n'a pas encore été ouverte. En France, cela fait des mois qu'une rumeur circule autour d'une candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle l'année prochaine. Une rumeur confirmée ce week-end par le polémiste d'extrême droite qui, sans se déclarer ouvertement candidat, a indiqué qu'il était effectivement intéressé. Une révélation assez mal reçue par l'autre figure de l'extrême droite française, Marine Le Pen, et son parti, le Rassemblement National. À Paris, les explications d'Anne Souhaitemont pour RFI.
Je pense beaucoup de bien d'Éric Zemmour, un vrai intellectuel, mais pas un candidat, un homme de télévision, mais pas un homme de meeting. Éric Zemmour rhabillé pour l'hiver en ce début de semaine par la garde rapprochée de Marine Le Pen. Au lendemain d'une émission dans laquelle le polémiste, condamné deux fois pour incitation à la haine raciale, confirme qu'il réfléchit à 2022, le mot d'ordre est simple, déminé. Oui, il a des velléités d'y aller, mais il finira par être lucide, veut croire un cadre. Éric Zemmour, possible caillou dans la chaussure de la candidate à l'Élysée, qui s'est d'ailleurs fendue d'un appel téléphonique, n'affaiblissait pas le camp national, lui aurait dit Marine Le Pen. Car Marine Le Pen le sait, Éric Zemmour pourrait la priver d'une poignée de points décisifs en 2022. Il ne doit pas être notre Taubira, s'inquiète une figure d'extrême droite, qui s'interroge sur le timing. Pourquoi se lancer alors que le RN et Marine Le Pen pourraient franchir un cap au régional? Éric Zemmour, qui d'après Politico serait en quête d'un directeur de campagne.
Et à l'autre bout de l'échiquier politique français, Jean-Luc Mélenchon est lui dans la tourmente après une interview donnée dimanche sur France Inter et au cours de laquelle il a tenu des propos complotistes en rapprochant des attentats survenus quelques jours seulement avant les deux dernières élections présidentielles. Il a évoqué notamment les attentats commis en 2012 par Mohamed Merah, puis en 2017 ceux qui ont frappé sur les Champs-Élysées. Des propos qui scandalisent l'ensemble de la classe politique et qui embarrassent ses alliés élus de la France insoumise. On fait le point avec Aurélien Devernois pour RFI.
Un naufrage politique et républicain, selon le secrétaire d'État au numérique Cédric O. Grave, décevant plus qu'un dérapage, d'après la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Le gouvernement fait feu de tout bois pour condamner les propos de Jean-Luc Mélenchon. Des propos dont il dénonce l'ambiguïté, comme la ministre déléguée chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa sur RMC.
Hier, M. Mélenchon a dit à l'antenne d'une grande radio,
oui, France Inter,
qu'il y avait avant chaque élection présidentielle, qu'il y avait comme par hasard un attentat, en mentionnant la responsabilité d'un « il » au pluriel, très vague, et on a un mélange de paranoïa
écrit
et
d'avance,
de complotisme.
Ils sortent des candidats de leur chapeau, ils commettent des attentats. Difficile en effet de faire la distinction dans les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Pas facile donc pour les insoumis de mener la contre-offensive, à l'image de la députée Clémentine Autain sur CNews.
Jean-Luc Mélenchon n'est pas complotiste. Ce sont les assassins qu'il vise dans ce moment-là. Ses propos ont pu être mal interprété.
Car selon les insoumis, tout est clair. Les terroristes cherchent à influencer les élections et l'extrême droite en profite pendant qu'une oligarchie de l'ombre pousse des candidats ultralibéraux. Reste que c'est avec un message brouillé que Jean-Luc Mélenchon s'avance à moins de deux semaines du premier tour des élections régionales.
On va maintenant jeter à la météo de ce mardi en Australie. 18 degrés à Perth, 13 à Adélaïde mais aussi à Melbourne, 21 degrés à Sydney, 23 à Brisbane, 28 degrés à Cairns et jusqu'à 31 degrés à Darwin.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le tournoi de Roland-Garros. Dylan Alcott, l'Australien, a remporté la finale du simple quad. C'était sa troisième victoire d'affilée en finale à Paris et son 13e titre en Grand Chelem. On l'écoute sur European Broadcasting Union.
How does it feel to have better win-loss percentage than Rafa Nadal at Roland-Garros?
Well, that's not bad. Yeah, I haven't lost the Roland. No, I haven't lost the Roland Garros. Yes, he's lost once or twice. Yeah, it's incredible. I don't think I'll be winning 13 though. Has he got 13? Probably 14. The way he's going. So, I really love clay. I love Roland Garros. I feel very lucky to be here at the moment with everything going on in the world. And I just tried to remind myself when I'm out there of those moments and try and, you know, execute the way that I want to execute and have fun, to be honest. And I was a bit flat early on, and I think if you've seen me play before, I like, you know, yelling at myself, not angrily, but getting myself, I'm like my own commentator. You don't need commentators, you just turn the mic on. And mate, I'm ecstatic, I'm really happy.
Et puis les huitièmes de finale hommes hier avec les victoires de Nadal, de Djokovic, de Schwartzman, de Berrettini qui s'est qualifié aux dépens de Roger Federer, qui a déclaré forfait dimanche. Eric Mamrut pour RFI nous parle des deux dinosaures qui ont gagné hier, Djoko et Nadal.
dans la douleur pour Novak Djokovic, plus facilement pour Rafael Nadal, même si il alternait le bon et le moins bon, l'Espagnol finalement vainqueur de Yannick Sinner, 19 ans, 19e joueur mondial. Il a servi pour le 7 dans la première manche, Sinner finalement, pour s'incliner 7-5, 6-3, 6-0. Nadal qui affrontera en quart de finale Diego Schwartzmann, l'Argentin tombeur en trois manches accrochées de l'Allemand Jan Lennard Struff. Novak Djokovic, eh bien, lui a souffert pour se débarrasser de Lorenzo Musetti, l'Italien qui découvre un tournoi du Grand Chelem ici à Roland-Garros. 7-6, 7-6 pour Musetti pour commencer face à un Djokovic totalement transparent qui eh bien, a retrouvé tous ses esprits au retour des Evestia après une longue pause. Résultat, il a enchaîné les jeux jusqu'à épuiser son jeune adversaire qui a finalement abandonné, perclus de crampes. De Djokovic qui affrontera un autre Italien en quart de finale, Matteo Berrettini.
Chez les dames, il y avait 4 matchs des 8e de finale. Le point, à nouveau, avec Eric Mamrut pour RFI.
Victoire logique de la tenante du trophée, Iga Swiatek, mais assez compliquée. Disons que Marta Kostyuk, l'Ukrainienne de 18 ans, elle lui a donné un petit peu de fil à retordre. Beaucoup de jeux accrochés, même si la Polonaise s'est imposée en deux manches. 6-3, 6-4, il faut dire qu'elle est en forme, surtout à Roland-Garros. Elle vient d'enchaîner une 22e manche, gagnée consécutivement ici sur les cours de la Porte d'Auteuil. Iga Swiatek, seul membre du top 10, rescapé lors de cette quinzaine. Il y avait encore aujourd'hui Sofia Kenin, d'ailleurs la finaliste sortante, Sofia Kenin l'américaine, a été battue la 4e mondiale par Maria Sakkari, la grecque Maria Sakkari, qui affrontera Iga Swiatek justement en quart de finale. Les autres affiches, il y aura Coco Gauff l'américaine qui a battu Ons Jabeur la tunisienne, contre Barbora Krejcikova la tchèque qui elle s'est offerte l'américaine Sloane Stephens.
On écoute Ons Jabeur sur EBU.
Ouais, c'est jamais facile de perdre un match comme ça, mais bon, elle a très 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 bien joué. Bon, j'ai pas bien joué, elle m'a pas vraiment laissé le rythme et de revenir et tout, mais bon, ça arrive dans les matchs de tennis et voilà, on va continuer à travailler et on va revenir plus fort.
Quel bilan tu tires de ton tournoi?
C'était bien, mais bon, toujours, personnellement, je veux toujours faire mieux et je veux toujours gagner, mais la bonne nouvelle, c'est que ça laisse une bonne partie pour travailler et pour gérer encore plus. Je vais maintenant vite fait tourner la page parce qu'il y a Wimbledon qui arrive bientôt, donc on n'a pas trop le temps pour rester sur terre battue. Et voilà, c'est une surface que j'aime bien et j'ai trop hâte de jouer sur gazon.
Et puis on revient sur le forfait de Roger Federer à Paris. Il va se concentrer sur Wimbledon et son gazon. Analyse d'Olivier Pron pour RFI.
C'est par un coup de téléphone à Guy Forget, le directeur du tournoi, que le Suisse a fait part de son retrait. L'homme aux 20 titres en grand chelem, véritable légende du jeu, était apparu soulagé mais fatigué. Il avait dit qu'il consulterait son équipe pour décider de la suite. C'est ce qu'il a fait, et avec un corps de bientôt 40 ans, on le rappelle, bien secoué, Federer a décidé donc de renoncer. Il n'avait disputé que 3 matchs avant d'arriver à Paris, revenait de 13 mois sans jouer, après une double arthroscopie du genou. Il ne pensait pas passer 3 tours. Il sait qu'il n'est pas candidat à la victoire finale ici et préfère donc se ménager en vue de la saison sur herbe. Le tournoi de Halle d'abord dans 8 jours et surtout Wimbledon, son véritable objectif à partir du 28 juin. Un forfait qui a sonné le tournoi mais que Guy Forget, le directeur, donc peut comprendre avec Eric Mamrut.
Vous savez, il y avait des doutes hein, quant à sa participation ici à Roland-Garros. On se souvient qu'à Genève, il est battu au premier tour par Andujar. De toute évidence, Roger avait accéléré sa préparation hein, pour jouer sur terre battue. Avec du recul, venir jouer en 5-7, c'était quand même courageux. Par sa facilité et son élégance sur le terrain, il s'est promené près sur les 2 premiers tours et on avait envie de croire à un exploit jusqu'au quart ou au demi-finale. Je crois que la réalité l'a rattrapé et après un match un peu difficile quand même hier, parce qu'il a dû cravacher pendant 3h30 pour s'imposer face à ce joueur allemand, son corps a montré à mon avis des petits signes de fatigue et donc voilà, il déclare forfait. Écoutez, on en aura profité, on l'aura vu quand même pendant 3 matchs, bon, nous régaler, parce que ceux qui ont eu la chance d'avoir un billet ont pu le voir sur des séquences de jeu magnifiques. J'espère pour lui qu'il sera à 100% dans quelques semaines, mais il a besoin à mon avis encore de quelques semaines de travail.
Federer que l'on ne reverra peut-être plus, hélas, à Roland-Garros. Hein. Compliqué de l'imaginer jouer ici dans un an, à 41 ans, en 5-7. Il aurait alors fait hier des adieux en catimini et à huis clos, c'est triste.
Medvedev, le russe, ravi d'être à Roland-Garros en quart de finale. Il jouera contre Tsitsipas, le grec. Autrefois, le russe détestait la terre battue. On l'écoute.
Là, ici, dès le premier jour que je suis venu ici, je suis entré bien, c'était jeudi. Je me suis dit que je joue très bien. Je joue exactement comme sur les surfaces rapides. Après, il est quand même différent. Tu peux quand même glisser plus, donc tu peux pas gagner tous les points avec une service en coup droit. Il faut travailler un peu. J'arrive à le faire. Je bouge très bien, je cours très bien, donc c'est pas très facile de faire un winner contre moi. Et donc, pour me battre, il faut bien jouer. Ça, c'est très satisfaisant de savoir ça. J'ai rencontré Stefanos qui, effectivement, peut très bien jouer, donc ça va être un bon match.
Cyclisme, le critérium du Dauphiné libéré a été remporté par l'Australien Richie Porte, le deuxième coureur australien à le faire après Phil Anderson en 1985. On écoute Richie Porte sur European Broadcasting Union.
This race for me, you know, I've been second here twice, and then I also lost second place one year in the last kilometer as well. But to finally win it, I'm just over the moon, you know, all the sacrifices, time away from my wife and two kids, you know, it's worth it. And this team, Ineos Grenadiers, are just absolutely brilliant today.
Did you think of a possible bad scenario when you saw Jack Haig giving it a go, Geraint crashing? What was going on your mind then?
No, look, I think I know the descent of the Duplan well, and you know, we've done it many, many times. So, you know, I decided to do my own pace, and then when I saw G crash, you know, it wasn't ideal, I guess, for the last 6 kilometers. But he came back. He's got some pretty bad road rash, but he'll be tip-top for the Tour. Yeah, look, I mean, I'm under no illusions as to what my job is at the Tour. To win this race just means so, so much to me. You know, it's a race I've always enjoyed, and to finally win it, 36 years old, it's a sweet moment.
Le Grand Prix de Formule 1 d'Azerbaïdjan a été remporté par le Mexicain Pérez devant Vettel, l'Allemand, et Gasly, le Français. On passe au foot. Les Socceroos ont écrasé Taipei 5 buts à 1 hier dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de 2022. L'Euro démarre dans quelques jours. Hier, un match amical avec la victoire écrasante de l'Allemagne contre la Lettonie. Dimanche, les Anglais ont battu la Roumanie. Et ce mardi, France, Bulgarie et Hongrie, Irlande. La finale de l'Euro Espoir a été remportée dimanche par les jeunes Allemands, 1-0 contre les jeunes Portugais. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
SBS, le programme en français, il est 13h et quasiment 29 minutes et le morceau hypnotique qu'on vient d'écouter, il s'appelle Paté ni Pat, il est interprété par la chanteuse Charlotte Adigéry. Allez, on passe maintenant aux actualités de la semaine en France et pour cela on retrouve Christophe Mallet et Émile Matasso.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, comme chaque mardi, place à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une d'économie française et la relance qui se confirme.
Oui, Bruno Le Maire le confirme, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, c'est le titre exact de son ministère, de son portefeuille. Il passe de plateau de télé en studio radio depuis 3 semaines, Bruno Le Maire, depuis que le déconfinement progressif est lancé en France. Et ce dimanche, Bruno Le Maire a accordé un long entretien au JDD, journal du dimanche. Il est à la une du journal avec ce titre « L'économie française repart ». Fort. Alors, bien sûr, dans ce genre d'entretien, il faut savoir décrypter la part du factuel et celle du politique qui, forcément, va vous dire que tout va bien, que les mesures du gouvernement sont les meilleures, qu'elles sont bonnes, que la politique insufflée par le président de la République Emmanuel Macron est à la hauteur des défis. N'oublions pas que les 20 et 27 juin prochains, les Français vont voter pour les élections départementales et régional, donc tout le monde est en campagne, Bruno Le Maire compris, au nom du gouvernement. Et dans un an, nous aurons l'élection présidentielle. Certes, il y a de tout cela en toile de fond, mais même s'il faut l'avoir en tête, on va prendre le temps de décortiquer tout ce que nous dit dans cet entretien Bruno Le Maire. Une photo, à l'instant, en ce début juin, sur l'état de l'économie française.
Alors, si on décrypte cette interview, que nous dit exactement Bruno Le Maire ?
Bien, il nous donne des chiffres, beaucoup de chiffres, mais des chiffres qui nous montrent que l'activité repart en France, notamment depuis donc le 19 mai, première phase du déconfinement, où on a vu les bars, les restaurants rouvrir à l'extérieur, en terrasse, ainsi que les commerces non essentiels qui, une nouvelle fois, avaient été fermés en mars-avril pour contenir la troisième vague Covid-19. Bruno Le Maire prend comme élément de comparaison le mois de mai 2019, c'est-à-dire il y a 2 ans, avant donc que la pandémie ne soit là. Et que voit-on ? Eh bien qu'en ce mois de mai 2021, les dépenses effectuées par carte bleue, carte bancaire, sont supérieures de 20% à celles de mai 2019. Il y a donc une ruée consommatrice, même si on a peut-être pris l'habitude de plus se payer directement par carte bancaire qu'en liquide, certes, mais cela confirme la dynamique actuelle, avec notamment l'emploi qui repart également, 50 000 emplois, 50 000 créations d'emplois, nous informe Bruno Le Maire dans cet entretien au JDD pour le premier trimestre 2021. Le ministre de l'économie qui rappelle également toutes les aides qui ont permis, les aides de l'État, d'éviter les faillites, les licenciements depuis le début de la crise sanitaire, il y a plus d'un an maintenant, le fameux quoi qu'il en coûte, ce quoi qu'il en coûte, nous avons protégé l'économie française, dit Bruno Le Maire, et il précise sa pensée, le quoi qu'il en coûte décidé par le président de la République a été une réponse exceptionnelle, ce sont ses mots, à une crise exceptionnelle. Mais ce quoi qu'il en coûte ne peut pas demeurer la règle, précise aussitôt Bruno Le Maire, dans une économie qui retrouve un fonctionnement normal. Il va falloir en sortir de toutes ces aides de l'État. Les déficits, en effet, se sont creusés comme jamais depuis mars 2020. La dette cumulée de la France, elle s'élève aujourd'hui à 117% du produit intérieur brut. Pour rappel, la dette de la France, elle était de moins de 100%, 98% en 2019.
Alors Bruno Le Maire qui incite en tous les cas les Français à consommer.
Et oui, il aimerait que les Français dépensent leur argent, les Français qui, depuis le début de la pandémie, ont épargné plus que d'habitude. Là où d'ordinaire 100 à 130 milliards d'euros sont épargnés par an par l'ensemble de la population, on dépasse depuis le début de la crise sanitaire les 150 milliards d'euros qui ont été épargnés. Cela peut paraître paradoxal, le nombre de commerces, secteurs d'activité sont à l'arrêt, mais justement avec le quoi qu'il en coûte, avec les aides de l'État, les ménages, pour la plupart, ont pu garder leurs revenus habituels. Et comme on était en mode de confinement, eh bien plus de restaurants, plus de loisirs, plus de déplacements, plus de billets de train à acheter, d'avions, plus de vacances non plus, de réservations d'hôtels, etc., etc. L'effet est mécanique, il est automatique. Les Français ont gonflé leur épargne, leur réserve d'argent. Et là, sans être trop directif, on sent bien que le gouvernement et Bruno Le Maire aimeraient que cet argent accumulé, cette épargne, eh bien, soit réinjecté assez vite dans les circuits économiques. Il invite clairement, sans détour, les Français à consommer, comme il l'avait fait durant l'été 2020, il y a un an. J'ai envie de dire aux Français, soutient le ministre, j'ai envie de dire aux Français, soutenez les secteurs les plus malmenés, par des mois de restrictions et de confinement. Et il insiste, hein, allez au cinéma, au restaurant, dans les festivals, séjourner dans les hôtels, les mots encore de Bruno Le Maire, allez au théâtre, acheter des livres. Voilà ce qu'il nous dit dans cet entretien au Journal du Dimanche. Bruno Le Maire qui n'oublie pas de préciser, évidemment, il faut continuer à respecter les gestes barrières. Le gouvernement pousse donc à la consommation made in France, hein, bien entendu, autant que possible, tout en continuant de soutenir les secteurs les plus affectés par la crise. Pour cela, il y a le gigantesque plan de relance, hein, les 100 milliards d'euros que pilote l'exécutif. Alors pour l'instant, dans les faits, seul un tiers de la somme, 35 milliards d'euros, ont été injectés. Bruno Le Maire, qui décidément est sur tous les fronts, il était à Londres ces derniers jours pour la réunion des ministres du G7, qui essaie là de s'entendre sur une taxation, hein, des grandes multinationales et notamment les géants du numérique, grand profiteur de la crise sanitaire, Amazon, pour ne pas les citer, hein, les livraisons à domicile, toutes ces multinationales du numérique qui échappent aux impôts et aux taxes des États.
D'ailleurs, quels sont les derniers indicateurs de la pandémie ?
Bien, la dynamique, elle est bonne. Le nombre de contaminations Covid-19 par jour est descendu sous les 10 000 nouveaux cas quotidiens. Le nombre de décès, il tourne en ce moment autour de 100 décès par jour. Et à raison de 500 000 vaccinations par jour, c'est le rythme actuel en France, le gouvernement est en passe de tenir ses objectifs dans cette campagne de vaccination. On en est à plus de 27 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, quel que soit le vaccin, et plus de 12 millions ayant reçu les deux doses. Et le calendrier du déconfinement, du coup, peut se dérouler comme prévu, comme annoncé. On va passer une nouvelle étape ce mercredi 16 juin. Le couvre-feu qui est imposé depuis 6 mois, hein, on avait commencé par un couvre-feu à 18h, puis 19h. Depuis le 19 mai, on l'a repoussé à 21h, ce couvre-feu, l'heure à partir de laquelle vous devez rentrer chez vous. Il va passer ce mercredi à 23h. Et fin juin, normalement, si les chiffres continuent de baisser, contamination du Covid, eh bien, il n'y aura plus du tout de couvre-feu à partir donc de juillet-août. Et parmi les restrictions qui tombent ce 16 juin également, on citera la réouverture des salles de restaurants en intérieur, donc pas seulement en terrasse, réouverture aussi ce mercredi des salles de sport et des piscine en ce mois de juin, synonyme de soleil et d'été.
Merci Émile d'avoir décrypté pour nous l'actu en France cette semaine.
Merci, à bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Vous êtes le fondateur de l'association Coral Gardeners, c'est pour sauvegarder les récifs de l'océan. Alors, présentez-vous.
Donc, mon nom, c'est Titou Ambernico. Je suis le fondateur et le CEO de Coral Gardeners. On est une jeune start-up qui a démarré il y a 4 ans, dont le but est d'aider à la sauvegarde des récifs coralliens. Et actuellement, je vous parle depuis l'île de Mo'orea, en Polynésie française.
Et donc, vous êtes basé en Polynésie française, c'est ça?
Exactement. Là, je me situe actuellement sur l'île sœur de Tahiti, appelée Mo'orea, où j'ai grandi depuis tout petit. Et c'est ici où la majeure partie de notre équipe est basée et où on replante du corail.
Alors, parlez-nous de votre équipe et les buts principaux de Coral Gardeners.
Complètement. Donc, du coup, on a commencé avec mon petit frère et quelques potes de mon île. Dans ma chambre, on avait enlevé les lits et tout ça. On avait mis des bureaux. Et ça a vraiment commencé comme ça. Aujourd'hui, on a une équipe de à peu près une vingtaine de personnes réparties entre du coup la Polynésie française, où je me situe aujourd'hui, la France, les États-Unis et le Canada. Et on a des personnes de vraiment de tous les horizons, différents profils, des ingénieurs, des biologistes marins, des personnes dans le domaine de la communication, réseaux sociaux. Et notre but principal avec Coral Gardeners, c'est de révolutionner la conservation marine et de créer un mouvement à l'échelle mondiale dans le but de sauver les récifs coralliens. Et du coup, on a trois missions. On plante du corail, on sensibilise et on développe des nouvelles technologies et innovations pour amplifier notre travail. Ouais.
Alors, parlez un petit peu de la situation chez vous à Tahiti et en Polynésie française.
Donc, du coup, aujourd'hui, les récifs coralliens, déjà dans le monde, on a perdu plus de la moitié des récifs coralliens. Ils sont soit morts, soit d'or et déjà condamnés. En juste quelques décennies. Et si rien n'est fait, les scientifiques, ils estiment qu'à l'horizon 2050, donc dans très peu de temps, il pourrait avoir tous les coraux, tous les récifs coralliens de la planète qui pourraient être condamnés. Ici, en Polynésie française, on a parmi les récifs coralliens les mieux préservés de la planète, mais on observe quand même ces dernières années un gros changement. Moi, je m'en souviens, quand je suis allé surfer avec mes amis, j'avais à peine 16 ans, on est arrivé au spot de surf et on a vu que les coraux en dessous de nos pieds, ils avaient blanchi. Et certaines parties du lagon ici à Moorea a perdu ses couleurs et il y a des taux de mortalité de coraux assez conséquents. Oui.
Et ailleurs dans le monde, quels sont un petit peu les récifs que vous avez pu sauvegarder?
Alors, pour le moment, c'est vrai qu'on s'est concentré principalement sur l'île de Moorea, où ça fait 4 ans qu'on plante des coraux. On a planté plus de 15 000 coraux sur l'île de Moorea. Par contre, en termes de sensibilisation, on a eu des retombées internationales. On a pu vraiment faire passer le message et l'histoire des récifs coralliens autour du monde. Et on n'a pas encore ouvert de branches ou de programmes de restauration corallienne autour de la planète. Mais par contre, on a un objectif qui est très conséquent, c'est de planter 1 million de coraux à l'horizon 2025 en ouvrant une trentaine de branches internationales. Ça peut être en Égypte, en Indonésie, à Hawaï, en Australie, et essayer de restaurer les récifs là-bas, oui.
Et vous connaissez, vous, personnellement, la grande barrière de corail en Australie?
Alors, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup eu d'informations à ce sujet. C'est un endroit qui me fait rêver, mais malheureusement, je n'ai pas eu encore la chance de pouvoir me déplacer et la voir en vrai. Par contre, j'ai beaucoup lu sur son sujet et j'ai appris aussi qu'il y a une grande partie de la barrière des corails, de la grande barrière de corail d'Australie qui a été impactée. Je crois qu'il y a eu plus de 30% de mortalité sur certaines parties. C'est le même problème auquel font face les récifs coralliens de Polynésie et les autres partout dans le monde. Et ça a l'air d'être un endroit magnifique et j'espère que j'aurai la chance d'aller plonger un de ces quatre sur cet endroit. Ouais.
Et en ce qui concerne la journée mondiale de l'océan le 8 juin prochain, est-ce que vous avez un projet spécial pour la Polynésie française?
Nous, pour la journée mondiale des océans du 8 juin, il est vrai qu'on va continuer à faire notre travail de tous les jours, c'est-à-dire qu'on s'estime privilégié. On a une équipe qui est tous les jours dans l'eau et on est en train de bichonner nos coraux qui sont en train de grandir sur nos nurseries. Et de temps en temps, on prend ces coraux-là pour les replanter sur des zones du récif endommagé. Donc, je pense que le programme, ça va être de continuer le travail qu'on fait tous les jours, mais aussi on prévoit un sacré plan de communication sur les réseaux sociaux. On a une communauté de 1,5 million de personnes qui nous suivent principalement sur Instagram, sur Coral Gardener sur Instagram. Et on est amené à documenter un petit peu notre journey et ce qu'on fait au quotidien à travers des photos et des vidéos pour faire passer le message. Oui.
Et donc, si les gens veulent savoir davantage sur votre association, on peut aller sur le site coralgardeners.org.
Exactement. La majeure partie des infos qu'on peut retrouver à propos du projet se situe sur notre site coralgardeners.org ou sur les réseaux sociaux. Coral Gardeners et en fait ça permet aux gens de non seulement d'apprendre plus sur nos actions mais aussi de rejoindre le mouvement. Aujourd'hui les gens peuvent nous rejoindre en adoptant un corail de partout où ils sont dans le monde et c'est un super gift, un super cadeau à faire pour la journée mondiale des océans. Ils choisissent leur préféré corail, ils donnent un nom et ils vont recevoir un certificat avec la photo de leur corail, ils vont avoir des news de notre équipe sur sa croissance, etc. Et ça leur permet de vivre l'aventure avec nous et de nous soutenir dans notre combat pour la sauvegarde des récifs coralliens.
Alors peut-être un dernier message aux gens qui nous écoutent, surtout les conséquences de ne rien faire si on ne fait rien avec les récifs coralliens.
Carrément, c'est relativement simple. Les récifs coralliens, c'est un peu comme les poumons des océans. Et moi, j'aime bien dire cette phrase suivante, « No reef, no ocean, no air », parce qu'il y a plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire, que ce soit en Australie, à Tahiti, en France ou partout dans le monde, qui vient des océans avec des récifs coralliens en bonne santé. Donc, si demain on était amené à les perdre, ça serait vraiment non seulement toute la chaîne alimentaire des océans et l'équilibre des océans qui serait bouleversé, mais aussi une grande partie de notre approvisionnement en oxygène, la photosynthèse. Et du coup, c'est des écosystèmes qu'on n'a pas tout le monde dans la chance de côtoyer au quotidien, mais on est tous liés, on est tous concernés par la sauvegarde des récifs. Et aussi, les récifs coralliens, ils sont amenés à disparaître chaque jour à cause du réchauffement de la planète. Et on a tous notre part de responsabilité là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut non seulement essayer de faire passer le message, voir ce qu'on peut faire au quotidien pour essayer de réduire notre empreinte carbone, vivre de mieux en mieux, mais aussi soutenir des projets comme le nôtre. On a pas mal de super projets autour du monde qui se battent au quotidien pour la sauvegarde de ces écosystèmes. Oui.
Eh bien, je vous remercie d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie. Bonne continuation et bon courage avec votre projet de Coral Gardeners.
Merci. On invite tout le monde à pouvoir venir voir en vrai ce qu'on fait sous l'eau ici à Mauréa. En tout cas, on vient juste de commencer. C'est un rêve d'enfant pour ma part. Aujourd'hui, on est toute une équipe et j'espère qu'on va pouvoir réaliser nos rêves et sauver les récifs coralliens dans le futur. Oui.
Merci à vous et très belle journée. À bientôt.
Au revoir, Maururu, Nana. Au revoir, à bientôt.
Merci.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse.
Et le morceau qu'on vient d'entendre, c'est le dernier titre de Clara Luciani. Il s'intitule « Le reste ». Allez, on arrive maintenant dans la dernière partie de l'émission. Et pour l'occasion, on va s'entretenir maintenant avec Xavier Barthélémy, le directeur artistique du Petit Théâtre de Sydney, dont le prochain spectacle, en français, va être joué donc à Sydney dans moins de 10 jours.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de théâtre avec Xavier Barthélémy. Bonjour.
Bonjour.
Alors Xavier, vous êtes le directeur artistique de la troupe Le Petit Théâtre Sydney et on se parle aujourd'hui parce que vous avez un nouveau spectacle qui va commencer d'ici une petite semaine. On reviendra sur les dates tout à l'heure, mais donc un nouveau spectacle bientôt sur scène à Sydney.
En effet, nous produisons notre après avoir survécu au Covid, nous produisons notre nouveau spectacle, qui est donc le nombril de Jean Anouilh, que nous présentons 15 jours au Chipen Street Theatre, qui est à Chippendale, à Sydney.
Alors, pour ceux qui connaissent pas, comme moi, je le confesse, le nombril de Jean Anouilh, en quelques mots, quelle est l'intrigue?
Eh bien, donc le nombril, comme son nom l'indique, en fait, c'est l'histoire d'une famille qui est très égocentrique, on va dire. Donc, et donc chacun des personnages s'occupe principalement de son nombril, hein, comme l'expression en français, être nombriliste. Et donc il y a 12 personnages dans cette pièce. Et donc le personnage principal, c'est Léon, qui est un vieil écrivain, de pièces dramatiques, et qui va pas très bien physiquement. Donc sa femme, ses enfants, sa maîtresse et son ami d'enfance, sous couvert de en voulant être gentil, viennent lui demander de résoudre leurs problèmes, souvent financiers. Et finalement, ils n'en veulent qu'à son argent ou à son temps, en tout cas. Et donc, y compris son médecin. Et voilà, il y a juste donc deux personnages qui sont un peu en dehors de ça. Donc, les personnages de la pièce, c'est Léon, il y a donc sa femme, sa maîtresse, ses trois enfants. Et puis donc il y a un médecin et deux déménageurs qui ont un rôle un peu particulier dans la pièce.
D'accord, ok. Alors le Petit Théâtre Sydney, la particularité de votre troupe, c'est que vous vous représentez en français ici en Australie et donc à Sydney en particulier, mais pour pas oublier les anglophones, ils sont quand même assez nombreux à Sydney, il y a des surtitres comme à l'opéra, c'est ça ?
En effet. En fait, nous sommes une association de amateurs de théâtre français à Sydney. Et donc nous avons des activités, nous faisons des représentations depuis un certain temps déjà. Nous avons officiellement commencé en 2015, mais nous avons tous un peu plus longue expérience que celle-ci. Donc en fait, on présente des pièces et des pièces ou des ateliers, mais donc tout en français, puisque c'est le but de notre association. Mais en effet, maintenant il faut aussi voir que nous sommes en Australie et donc là. En fait, notre public se compose à moitié, une bonne moitié, oui, de gens qui sont ou francophiles ou qui sont les partenaires des Français qui viennent nous voir. C'est-à-dire que nous offrons un spectacle qui puisse être compris par des gens qui apprennent le français, par des gens qui ont envie de comprendre le français, ou par les époux ou les partenaires, comme on dit même ici, des Français qui vivent ici. Et donc, pour que tout le monde puisse comprendre la pièce. De la même façon, on essaye aussi toujours de présenter plus ou moins des comédies. Ça permet d'alléger la situation et donc d'avoir un peu plus un théâtre, on va dire, de présence, de physique.
C'est pas uniquement basé sur le texte.
Exactement. Voilà, c'est ça. Donc ça te permet de mélanger un peu les genres et donc souvent la traduction est faite d'ailleurs avec beaucoup d'attention. Hein. On passe vraiment beaucoup de temps dans les sous-titres parce que l'art du sous-titre comme est un art en soi, puisque c'est pas une traduction mot à mot, mais c'est adapté à la culture locale pour qu'ils puissent comprendre les références ou les blagues qui sont dans le texte, en fait.
D'accord, ok. Alors, donc, la pièce est jouée en français, mais avec des surtitres en anglais pour que tout le monde puisse suivre ce qui se passe. Vous disiez tout à l'heure que la moitié du public est de langue maternelle anglaise et que vous avez ça à l'esprit lorsque vous assurez vos représentations. Est-ce que peut-être vous parlez plus lentement, vous utilisez des mots un peu plus simples que le texte original ou c'est simplement un gros travail sur la traduction pour s'assurer qu'on n'est pas juste dans une traduction littérale, mais bien une adaptation, que tout le monde puisse comprendre les blagues, les jeux de mots, etc.
Excellente question d'ailleurs. Non, le texte est assez peu modifié. Le texte original en français, en tout cas, est assez peu modifié, suivant la volonté du metteur en scène, évidemment. Mais parce que des fois on est obligé d'adapter ou de raccourcir un peu, mais non on essaye de changer le moins possible, mais en effet toute l'activité d'adaptation est dans, comme vous dites, c'est l'adaptation dans une langue étrangère. D'accord. De même, des fois on trouve les textes déjà traduits, mais ils sont réadaptés parce que les textes traduits ne sont pas forcément avec la référence culturelle de ce que l'on montre aussi. Parce que par exemple, il y a des blagues où le texte a été en anglais, a été complètement changé pour faire d'autres références culturelles. Mais comme nous le jouons en français, il faut pouvoir expliquer la référence culturelle que l'on dit en français, en fait.
Ok. Alors donc, le nombril de Jean Anouilh, ça se passe au Chippen Theatre, Chippen Street Theatre, pardon, qui est donc dans le quartier de Chippendale. C'est très proche du CBD à Sydney. Les dates de représentation, quelles sont-elles? Et si on veut réserver une place, acheter des billets, comment il faut faire?
Eh bien, les dates de représentation, donc Le Nombril est une pièce de Jean Anouilh. Alison Windsor est notre metteur en scène. Et donc, nous la présentons 8 fois au Chippen Street Theatre. Donc, c'est du 17 juin au 26 juin. Le 20 juin est une... Je me souviens bien, c'est le 20 juin, est un dimanche. Nous faisons matinée, comme on dit, qui commence à 5 heures du soir. Et sinon, c'est du mercredi au samedi à 7h30, je crois.
D'accord.
Et donc, pour réserver vos places, n'hésitez pas à regarder notre page Facebook, le Petit Théâtre Sydney... Sur Facebook, où nous avons aussi un site internet qui lepetitthéâtresydney.org.au, où aussi vous trouverez les liens et notre histoire d'ailleurs sur euh, sur la troupe et sur le spectacle en particulier.
Merci beaucoup Xavier Barthélémy pour toutes ces précisions. Donc le Nombril de Jean Anouilh du 17 au 26 juin au Chipping Street Theatre, et vous avez déjà un autre spectacle dans les tuyaux pour les prochains mois.
Tout à fait. Le fin octobre, nous avons notre prochain show qui, lui, se déroulera à Erskineville, au PACT, au PACT Theater. Et ce sera donc un medley de petites pièces basées sur un thème commun qui est la musique. Et j'espère que nous aurons le temps d'en reparler d'ici là.
Avec plaisir, vous êtes toujours le bienvenu sur notre antenne. Merci encore Xavier Barthélémy et à bientôt.
Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.
Et une fois n'est pas coutume, notre émission se termine avec Corinne et ce morceau qui fait du bien et qui s'intitule « Il fait chaud ». Et ça fait plaisir à entendre alors que nous, en ce moment, eh bien, c'est l'hiver. Alors, notre prochain rendez-vous radiophonique, ce sera jeudi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous écouter quand vous voulez en podcast sur notre appli SBS Radio ou sur toutes les plateformes de streaming audio en vous abonnant à notre chaîne SBS French. Passez à tous une excellente après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.